Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel.
Jean-Louis Comolli, l'utopie et le cinéma. Une discussion à l'issue de la projection de Monsieur Comolli de Dominique Cabrera, modérée par Laurent Roth.
Bien, donc... C'était une idée de Catherine Bizerne de nous réunir autour de Jean-Louis Comolli, du cinéma et de l'utopie. C'est elle un peu qui nous a proposé de réfléchir sous cette enseigne, avec le très beau film de Dominique, bien sûr, et dont nous allons d'abord parler. Donc voilà ce que je vous propose. On a une grosse heure de discussion. On va procéder peut-être en trois temps. Le premier donc sera de faire un tour de table sur notre ressenti et nos émotions après ce film. Voilà, et je pense que ça s'impose, on ne peut pas en sortir comme ça indemne. Dans un deuxième temps, ce sera donc l'exercice de figure imposée où j'ai demandé à mes petits camarades de réfléchir à cette question de l'utopie. Donc il y aura un moment où nous échangerons et chacun donnera un peu sa vision des choses. Et dans un troisième temps, je propose un dialogue entre nous sur les idées échangées, de construire un feu, continuer de le construire, puis de le construire avec vous surtout, hein, c'est-à-dire essayer d'ouvrir le débat à vos propositions, vos interventions. Je signale qu'il y a quand même de très nombreuses compagnons, compagnes de route de Jean-Louis Comolli, j'en vois beaucoup, voilà. Donc c'est évidemment un cercle très large, hein, qui nous réunit ce soir. Alors, nous attendons Michel Planel, mais qui est bien là. Je dois excuser donc Sylvie Pierre, qui est retenue. Et Sylvie Lindeperg, jusqu'à hier soir, elle devait être des nôtres, mais bon, elle est testée positive au Covid, donc le jeu continue. Voilà, des chaises musicales avec des chaises vides du fait de cette pandémie qui continue d'être parmi nous. Mais elle le regrette beaucoup, et je vous dirai sur quoi elle avait prévu d'intervenir. Voilà Michel, ça tombe bien Michel. Parce que j'avais prévu donc de vous présenter les intervenants quand même rapidement. Donc moi, je rappelle que je suis Laurent Roth. Je vais présenter les intervenants par rapport aussi à leur parcours avec Jean-Louis Comolli, qui nous intéresse ici spécialement. Donc Michel, qui vient d'arriver, a fondé les fameuses éditions Verdier, à La Grasse, dans l'Aude. Il faut citer tous ses camarades, parce que ce n'est pas une maison qui personnalise le pouvoir. Donc il y a Colette Olive, Gérard Bobillier, Benoît Rivero, qui était donc à l'origine de la fondation de cette maison d'édition dans la mouvance de la gauche prolétarienne, issue des mouvements de mai 68. Je rappelle un peu la déclaration de principe des éditions Verdier, qui est souvent mentionnée dans l'éditorial de la maison d'édition. Si on ne pouvait pas changer le monde, on pouvait du moins contribuer à changer les consciences. Voilà qui nous mène déjà sur la piste de l'utopie. Alors cette question, elle est en plein cœur d'un travail où, vous le savez, les éditions Verdier mêlent intimement la fiction, l'écriture romanesque et l'essai philosophique, théorique. C'est une des grandes originalités de cette maison. Aider, nous comprendre à ce qu'est le monde et ce que nous y faisons. Je vais aussi céder au plaisir de lire une très belle adresse de Pierre Michon, qui est un des auteurs de la maison, que Pierre avait écrit au moment d'un anniversaire, je crois, des éditions Verdier. Et voilà, c'est une belle adresse qui comprend un petit peu aussi notre raison d'être ici. Ce qui importe, c'est qu'avec le monde, on fasse des pays et des langues. Avec le chaos, du sens. Avec les prés, des champs de bataille. Avec nos actes, des légendes et cette forme sophistiquée de la légende qu'est l'histoire. Avec les noms communs, du nom propre. Que les choses de l'été, l'amour, la foi et l'ardeur gèle pour finir dans l'hiver impeccable des livres. Et que pourtant, dans cette glace, un peu de vie reste prise, fraîche, garante de notre existence et de notre liberté. Fin de citation. Alors, Michel Planel, il faut maintenant mentionner sa relation avec Jean-Louis. Elle a commencé il y a une vingtaine d'années avec Colette Olive. Elle l'a accompagné d'abord sur un travail théorique que beaucoup d'entre vous connaissent. C'était donc « Voir et pouvoir », je crois, le premier ouvrage en 2004 qui rassemblait beaucoup d'articles parus dans de nombreuses revues, dont la revue Images documentaires, que je mentionne, puisque sa dernière livraison, c'est un très beau numéro consacré à Jean-Louis, qui est ici. Cinéma contre spectacle. Il me semble que le texte important, théorique de Jean-Louis, technique et idéologie, est repris, je crois, dans ce volume. Corps et cadre. Cinéma mode d'emploi, coécrit avec Vincent Sorel, ici présent. Daesh, le cinéma et la mort. Et le dernier, une certaine tendance du cinéma documentaire. Mais, et c'est une des questions que soulève le film de Dominique Cabrera, Jean-Louis, à la fin de sa vie, va pratiquer un récit, on va dire, auto-fictionnel, un récit littéraire, qui est illustré par trois très très beaux titres. Une terrasse en Algérie, qui est vraiment un livre absolument magnifique. Je crois qu'il a eu d'ailleurs le prix François Mauriac, ce qui est assez amusant, voilà, connaissant les appartenances politiques de l'un et de l'autre. Jouer le jeu, donc, qui est présent dans le film... qui paraît... Jean-Louis meurt le 19 mai et je crois qu'il est en librairie juste après. Oui, voilà. Donc c'est une parution quasiment posthume. Et puis le tout dernier, En attendant les beaux jours, qui est le fameux livre dont il parle avec Dominique et Isabelle dans le film, hein, qui n'avait pas encore... Oui, en sursis, il n'avait pas ce titre-là. Donc bon, voilà, c'est pour finir... Voilà, En attendant les beaux jours, qui n'a donc ni queue ni tête, dit Jean-Louis. Voilà pour ma présentation de Michel. C'était important quand même de la resituer par rapport à tout ce travail que nous connaissons, nous, cinéastes, peut-être un peu moins, mais qui est tout aussi important. Et surtout sur la fin de la vie de Jean-Louis, cette revendication de l'écriture a été une position de sa part, je pense, assez centrale. Alors, ensuite, je vais présenter Isabelle Lecorf, donc, qui est juste à côté de moi, à gauche, qui est professeur en études cinématographiques, bon, je ne vais pas dire à l'Université de Bretagne occidentale, parce que personne ne sait ce que c'est, donc c'est Brest, hein, voilà. Tu es rédactrice en chef de la revue Mise au Point, et tes recherches portent sur le cinéma documentaire contemporain. Je ne parle pas du cinéma irlandais, mais il est aussi très présent dans ta bibliographie. Donc tu es co-auteur du film que nous venons de voir. Et puis, il faut mentionner quand même un auteur cher à Cinéma du Réel. Tu as coordonné le livre sur Denis Gerbrand. Denis Gerbrand et la ville, et peut-être dans la salle d'ailleurs. C'est un fidèle en tout cas. Et voilà, c'était il y a un an et demi. Oui. Et puis deux livres en préparation sur et avec Jean-Louis Comolli. Alors je n'ai pas les titres et je te charge de les dire.
Non, nous n'avons pas encore les titres. Donc le titre provisoire, c'est Le cinéma de Jean-Louis Comolli, Paroles et Utopie. Mais ça peut encore changer. Par contre, ce que nous savons désormais, c'est qu'il va paraître aux éditions Worm en décembre de cette année.
Et il y a un livre d'entretien.
Alors là, je cherche encore l'éditeur. S'il est dans la salle, je veux bien discuter avec lui.
Ce qu'Isabelle a fait, je crois... un parcours exhaustif à repasser en revue tous les films de Jean-Louis, presque tous.
Non, malheureusement, ça c'est un chantier que nous avions commencé avec Jean-Louis tardivement et il m'a laissé au milieu du gué.
D'accord. Donc à suivre. Voilà. Vincent Sorel, donc à mon extrême droite, qui est cinéaste et maître de conférences en études cinématographiques à l'université Grenoble-Alpes, où vous savez qu'il y a cette originalité à l'université Grenoble-Alpes d'avoir imaginé un master de création documentaire avec nos chers états généraux du documentaire de l'USAS, enfin, et on parle plus particulièrement à Ardèche Images. Donc c'est un master où il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de réflexions et de pratiques en même temps. Voilà. J'ai déjà d'ailleurs vendu la mèche parce que la réflexion à la pratique, c'est vraiment le cœur de la pensée de Vincent qui a vraiment. Je me régale à chaque fois parce que. Il a une écriture conceptuelle sur le cinéma qui ne fait pas du tout l'économie de la réflexion sur les outils. Or, à mon avis, c'était une des grandes lacunes de la pensée théorique en France. Donc, il a publié sur la caméra Éclair 16, sur les appareils Bolex, sur la fameuse caméra à Aton, et comment ces outils, bien, ce ne sont pas que des outils de fer, ce sont des outils de pensée. Dans une vieille idée marxiste, évidemment, on ne différencie pas les deux. Et c'est aussi ce qui caractérise ton approche des cinéastes quand tu les filmes. Tu as fait de très beaux portraits de Pellecchian, de Vittorio De Sica. Et là, tu m'as dit tout récemment que tu préparais un film sur les essais cinématographiques de Jean-Luc Godard. Voilà. Et les vidéos. Oui, voilà. Qui se terminent. Alors évidemment, ton intention à la technique, c'est évidemment ce qui va expliquer sans doute ta découverte de Jean-Louis. Au moins déjà par ce texte théorique que tu as dû lire avant de le connaître lui. Et puis vous avez à partir des années 2000, enfin ce travail, qui est ce livre, Le cinéma mode d'emploi, qui est vraiment une pierre de touche dans l'édition à la fois de théorique de Jean-Louis, mais dans l'édition théorique tout court du cinéma, avec un très beau séminaire à l'USAS aussi auquel j'ai assisté. Ponctué par les rires de Jean-Louis, nécessaire. Voilà, et puis bon, last but not least, Dominique Cabrera. Alors, c'est une présentation que je vais essayer de faire courte. Si je la retrouve d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, Dominique. Je vais la faire de mémoire. Allez. Dominique, non, mais il faut quand même... Voilà, je vais être un peu provocateur, je vais commencer par la fiction, parce qu'on est dans un festival de documentaires. Mais aussi te présenter... Je te représenterai comme je l'ai fait avant de lancer le film « Bonjour, Monsieur Comolli », sur ce titre « L'intime et le politique » que je trouvais très bien trouvé du livre coordonné par Julie Savelli aux éditions de l'Incidence. C'était en 2021 hein, que ce livre est paru. Et j'avais envie de faire chanter ce titre, l'intime et le politique, en le réécrivant, l'intime est le politique. Voilà, je pense que c'est une des questions peut-être qu'on pourra se poser dans notre discussion sur l'utopie. Alors de fait, oui, je te présente par rapport à la fiction, parce que ce sont quand même deux grands films et... Je ne sais pas si tu as réussi là où Jean-Louis a échoué. Il dit dans le film qu'il a été rigidifié par un cadre rigide. Il a lui-même... Il dit, il a pas échoué forcément. Ce sera un objet de discussion. Mais en tout cas, toi, tu te sens à l'aise dans les habits larges de la fiction, avec des grandes histoires et des personnages et des acteurs qui coûtent cher en général aux producteurs. Fiction où les histoires individuelles sont toujours mêlées aux histoires collectives, soit les histoires collectives de l'histoire en train de se faire, par exemple une grève de cheminots, mais aussi où la grande histoire est fortement engagée, la mémoire de la guerre d'Algérie, ou par exemple de l'Exode en 1940. Alors il faut citer ces films-là, L'autre côté de la mer, Nadia les hippopotames, Le lait de la tendresse humaine, Folle embellie, Corniche Kennedy. Hein. Et puis, alors, les documentaires, c'est les films par lesquels on te connaît mieux ici, à Cinéma du Réel. Je crois d'ailleurs qu'ils sont passés beaucoup ici. Hein. C'est en sortant de l'IDEC, je cite les principaux titres, hein. Chronique d'une banlieue ordinaire et une poste à la Courneuve pour les deux plus connus. Alors, au milieu de beaucoup d'autres formats, de courts-métrages, d'essais. En fait, tu es toujours en train d'essayer depuis le début. Hein. C'est l'impression que j'ai. Et puis à partir de 1985, donc ce qu'il est convenu d'appeler les documentaires à la première personne, Demain et encore demain, donc qui sort en salle, hein, la même année, presque, je pense, dans la même paire de mois que la rencontre d'Alain Cavalier. Il y a une année 95 qui est importante, hein, où Rome désolé de Vincent Dieutre, qui est parmi nous, cette année a fait chanter la première personne dans le cinéma, c'est clair. Grandir en 2013, qui s'intitulait Ô heureux jour en titre de travail, Et puis on peut aussi citer Le cinquième plan de la jetée, qui est un film que tu es en train de terminer. Mais très vite, évidemment, ces trois films nous mettent en face d'un nous qui est d'un jeu qui est très centrifuge, c'est-à-dire qui devient une sorte de nous. Hein, tu as une pratique quand même de ce cinéma qui est très, très élargie. Et donc cette année, ces deux portraits troublants, programmés par Cinéma Durel, l'un en compétition, un Mensch, portrait de Didier Motchan et Bonjour Monsieur Comolli. Donc c'est voilà, nous sommes convoqués à ces films qui sont à la fois eux-mêmes encore intimes et politiques et extrêmement troublants. Donc je vous propose, chers camarades, de réagir à Bonjour Monsieur Comolli qui veut commencer, peut-être pas Dominique. On va... Est-ce que Michel ou Vincent, parce que vous êtes peut-être moins proche qu'Isabelle, évidemment, du film.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce temps d'attente au moment où vous arrivez chez Jean-Louis. C'est quelque chose qu'on n'attend pas, puisque c'est un film sur lui, et le fait qu'on va vers lui, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très impressionnant et très juste, comme, qui instaure déjà une relation. Voilà. Sinon, je suis très émue d'écouter quelqu'un qui parle avec autant de sentiments, autant de richesse dans ses propos, autant de courage vu la situation.
Merci. Vincent ?
Oui, alors c'était particulièrement émouvant parce que je crois que c'est la première fois que je me retrouve dans la position de voir un film, d'avoir l'impression de l'avoir traversé, quoi. C'est-à-dire de m'être présenté si souvent rue Valla, d'avoir sonné au même interphone et d'avoir partagé cette table de la cuisine, puisque le bureau est tellement encombré que c'était autour de la table de la cuisine que ça se passait. Moi, à cette époque-là, c'était plutôt c'était pas le Chassagne-Montrachet, mais c'était le Pic Saint-Loup qui était à l'épreuve.
C'est moins cher.
C'est ça.
Et moi, alors ce qui m'a aussi énormément touché, c'est la scène de fin qu'on ne verra pas, que Jean-Louis Comolli a offert au film en quelque sorte, qui est ce désir de vouloir aller filmer les roses qui revient, et donc ces roses qu'on ne verra pas, et ce jardin qui reste un petit peu de loin. Donc ça, c'est extrêmement touchant, parce qu'on le sent aussi encore un peu metteur en scène.
Approche-toi du micro.
On le sent encore un peu metteur en scène, enfin un peu beaucoup, et là, il y a un très beau cadeau qui nous fait, et donc... On quitte le film en imaginant cette scène des roses dans le jardin.
Je dois dire que j'ai hérité d'un rosier du jardin. On m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais le rosier et je l'ai planté dans le sud, dans mon jardin.
Parlez très près. Oui. Parlez très près du micro, s'il vous plaît.
Je dis que on m'a demandé ce que je voulais, sa sœur Annie, comme souvenir, et j'ai demandé le rosier dont les roses changent de couleur. Et je l'ai planté dans mon jardin, dans le sud.
Donc il y a cette très belle scène avec les roses, et puis il y a aussi quelque chose de formidable qu'on traverse, qui est la bibliothèque. Oui. Cette bibliothèque qui était sans arrêt en organisation, réorganisation, dans laquelle il y avait beaucoup de doublons, parce que quand Jean-Louis ne trouvait plus un livre, il le rachetait. Et donc de temps en temps, ça lui permettait d'offrir les doublons, et donc qui est aussi quelque chose de mémorable, parce que vous avez toute la construction intellectuelle de quelqu'un quoi, qui est rassemblé dans cet espace, dans les couloirs de l'appartement, dans ce petit labyrinthe.
Isabelle, donc se découvrir forcément personnage, hein, parce que c'est pas que voilà, un travail universitaire, là tu es devenu personnage de film.
Oui. Alors, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez étonnant dans la manière dont ça s'est fait, puisque moi, j'avais ce projet de livre et que Jean-Louis, je crois, avait envie de la troupe. Donc, il avait envie que je sois là aussi, alors que c'était Dominique qui faisait le film. Et avec Dominique, on préparait des choses. L'idée était, au départ, en tout cas, qu'on... compare en fait les films des deux cinéastes, qu'on trouve des points communs et que chacun discute des films de l'autre. Et chaque fois, on préparait. Et chaque fois, il se passait autre chose. Parce qu'en effet, Jean-Louis, je crois, était metteur en scène lui aussi. Et nous faisait le bonheur, en fait, de sa spontanéité, de sa fulgurance de pensée. Parce que moi, vraiment, ce qui m'a émue en voyant le film aujourd'hui, mais tout au long des rencontres, c'est en dépit de la maladie. Et on est allé quand même jusqu'en avril. Et il nous a téléphoné jusqu'à l'avant-veille de sa mort. Et il a toujours eu cette fulgurance de pensée qui était absolument incroyable. Et ce recul aussi, à la fois sur l'écriture et sur le cinéma. Et je crois que dans ce film, il apporte énormément de choses. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté presque enfant, enfantin, l'arbre de Noël, cette présence des roses, les petites choses, les petits détails qui étaient là et qui faisaient que chaque fois il y avait une grande fébrilité avant un tournage parce que jusqu'au dernier moment, on était aussi dans le Covid, donc on devait se tester. On ne savait jamais, une heure à l'avance, si on allait pouvoir tous y aller et si lui allait être en mesure de nous recevoir. Donc il y avait vraiment cette grande fébrilité pour y aller. Et chaque fois, c'était un moment très fort, très chaleureux. Et de voir maintenant le film, je trouve que c'est un cadeau absolument immense. Merci Dominique.
Alors moi je poursuis avec peut-être une question à Dominique, puis il y aura peut-être le temps de prendre 2-3 questions quand même sur ce film, ça vaut la peine d'y passer un peu de temps, avant d'aborder la deuxième partie de la table ronde. Mais ce qui me frappe beaucoup, et je vais élargir ma réflexion au cinéma documentaire aujourd'hui, c'est que quand on prend le parcours de Jean-Louis et le tien, mais ce qui apparaît, c'est que le cinéma est de plus en plus un geste partagé. Tu fais ce film avec des collaboratrices que tu amènes. Tu aurais pu te contenter d'un dialogue avec Jean-Louis en tête-à-tête, tu vois. Et vous êtes, même ta chef opératrice qui est là, elle est conviée au bal, elle est présente dans le geste de filmer. Et donc, si tu as une manière de faire le cinéma de plus en plus collective, me semble-t-il. Et chez Jean-Louis, il a aussi de plus en plus associé les gens avec qui il travaillait. Je me souviens qu'Anne Baudry a co-signé certains films, qui était sa monteuse dans les années 90. Michel Sanson, bien sûr, pour toute la série des films sur Marseille, jusqu'au film récent avec Ginette Lavigne. Je crois me souvenir que Ginette est d'abord co-auteur, puis co-réalisatrice des films. Et puis on voit le cinéma du réel aujourd'hui dans la sélection. Catherine Bizerne le disait à la conférence de presse. Je crois qu'il y a 35% des films qui sont co-signés par des tandems, des couples, réalisatrices, réalisateurs, des collectifs. C'est une tendance très lourde du cinéma documentaire chez les très jeunes et chez les moins jeunes. Est-ce que tu as quelque chose à dire de cela, Dominique ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est aussi, là, en l'occurrence, affaire de circonstances. Parce que quand Jean-Louis... Des mois avant, en fait, me propose de faire un film, de faire une expérience. En fait, je commence à le filmer moi-même, puisque moi, je désirais faire ce film en filmant. Je désirais faire ce film, lui et moi. Et puis, Jean-Louis me dit « Je ne veux pas que tu me filmes, parce que si tu me filmes, tu ne vas pas m'écouter. » On ne peut pas filmer et écouter à la fois. Et donc, moi, je veux que tu m'écoutes. Bon, alors, voilà, je n'étais pas d'accord. Hein. Mais j'ai fait ce que Jean-Louis me demandait. Et c'est ainsi que Karine et puis ensuite Isabelle sont arrivées dans l'histoire. Et c'était pas un choix de ma part. C'était plutôt une mise en scène, peut-être, de Jean-Louis, dans laquelle je me suis coulée et avec laquelle j'ai fait le film, en fait. C'est aussi une grande leçon, peut-être, de Jean-Louis, être toujours dans le rebond par rapport à ce que le réel, en l'occurrence, non seulement ce que Jean-Louis souhaitait pour Compagnie, mais aussi, bien sûr, la maladie et la mort. Au début, j'avais envoyé à Jean-Louis puisque Jean-Louis, il était très intéressé par l'idée d'improviser. On était en écho avec le film que Jean-Louis a fait avec Nicolas sur l'idée d'une conversation.
Nicolas Philibert,
qui est là, filmait des conversations. Et donc, il s'agissait à la fois... Alors, Isabelle, oui, il y a eu de la préparation, c'est vrai, mais en fait, c'était aussi ne pas préparer. Jean-Louis disait beaucoup « Ah non, mais on ne prépare pas ». Et en même temps, il disait « On va parler de nos films ». Moi, je sentais bien qu'il n'avait pas tellement envie de parler de mes films, mais plutôt des siens. Et moi, j'avais pas spécialement envie qu'on parle de mes films non plus. Et bon, mais c'était comme une espèce d'idée qu'il avait « On va partager les films ». Ce qu'il a fait très bien avec Claudio Pacienza des années avant. Et là, c'était pas ça pour moi. Je voyais bien que c'était pas ça le cœur de la chose. Et donc, j'avais envoyé à Jean-Louis le commentaire de Johan van der Keuken, Vacances prolongées du cinéaste, enfin, le texte, parce que je pensais que c'était ça le sujet, à cause de ce qui se passait. Enfin, que le sujet, c'était ce qui se passait. Et là, Jean-Louis m'a dit, non, mais pas question. Tu n'es pas Wim Wenders et je ne suis pas Nicolas Ray. Donc, oui, c'était vrai. Donc, bon, là aussi, je me suis inclinée, quoi. Et ce qui a été très troublant pour moi, c'est que, finalement, ça a été le sujet... C'est devenu le sujet pour lui. Il le dit à la fin, on est dans le vrai film. Bon, moi, c'était le film que je sentais qu'il fallait faire depuis le début. C'est-à-dire raconter avec lui ce qui se passait. Et puis, je pense parce qu'il était, je ne sais pas ce que je peux dire, ça me traverse l'esprit. On se paye pas de mots, quoi. Voilà. Ce que j'aime dans ce film, c'est que, enfin, dans ce que Jean-Louis a apporté là, c'est qu'à la fois il se paye de mots, il adore les mots, jouer avec les mots, etc. Et aussi, il ne se paye pas de mots. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très réaliste. Et c'est peut-être pour ça que, le film, le vrai film, comme il dit, oui, il se met non seulement... C'est pas qu'il l'accepte, c'est que c'est lui qui se met à en parler. Et on en parle dans le film parce qu'il en parlait beaucoup off, évidemment, dans les mails, dans les conversations, etc. Ça devenait le sujet. Et il y a comme une naissance du sujet, en fait, un surgissement. C'est une des choses qui a été quelque chose de très... Je ne sais pas si on peut dire heureux, oui, heureux, à partager avec Karine, avec les étudiants d'Isabelle et avec Isabelle, les étudiants qui sont là. Excusez-moi, les prénoms m'échappent, mais je vois les visages. Ça a été... En fait, là, on a eu une sorte de liberté, grâce à Jean-Louis, grâce aux conditions de production inexistantes dans lesquelles on était peut-être... de faire le film qui se passait, quoi. Ce qui se passait, de suivre les méandres de la vie. Et il y a eu un surgissement, vous le voyez bien, quoi, de la transformation du sujet, on pourrait dire, au fur et à mesure de notre tournage. Et puis, chose qu'on a essayé de faire exister au montage à partir de ce qu'on avait filmé. Mais c'était bien là, dans ce qu'on filmait. Et ça, c'était ça a été une leçon, on pourrait dire, de Jean-Louis, et puis de ce tournage, d'essayer de faire exister à la fois l'imprévu, l'imprévisible, et puis quelque chose de la pensée, de la mise en scène, comme dans une espèce de doublure de la veste. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Comme dit Jean-Louis dans le film, mais tout est dit dans le film, pour moi. Il y a le visible et l'invisible. et voilà, travailler sur le visible. Et puis il y a aussi l'invisible sur lequel on essaye d'apporter des éléments à la fois en termes de qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que ça pourrait être le cinéma documentaire, des moments fictionnels, enfin toutes les figures du documentaire, etc. Parce que moi, ça m'amusait beaucoup de le faire, et je pense que Jean-Louis aussi. Il n'était pas dupe de ce qu'on est en train de faire, quoi, hein, bien sûr. Au contraire, même.
Merci, Dominique. Alors, on a le temps peut-être de une ou deux interventions ou questions, parce qu'on a... on doit...
On peut changer de route, là.
On peut changer de route, si tu veux.
Comme dirait Jean-Louis.
On peut changer de route, mais voilà.
On fait ce qu'on veut. Hein.
Il y a des vivres dans notre panier de pique-nique que nous aimerions bien manger ensemble aussi. Donc allez, on passe peut-être à une ou deux questions, interventions, et puis on ira sur l'utopie ensuite. Oui, au fond. Bon, on va attendre un micro, parce que on présume toujours un peu de ses forces.
Bonsoir tout le monde. Christophe André, que vous connaissez sûrement, qui est le chantre de la méditation de pleine conscience, nous donne comme conseil, quand on lit ses livres, de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier. Alors, notre dernier instant, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous, qui avez vécu pendant le film avec Jean-Louis, est-ce que... moi, c'est une bonne illustration, ce film, pour moi, parce que c'est quelqu'un qui vit l'instant présent alors qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Mais il y a... Même ceux qui savent qu'ils ne vont pas bientôt mourir, eh bien, on peut vivre l'instant présent comme si c'était le dernier quand même. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, vous qui avez vécu avec lui pendant le film, qu'il vivait vraiment l'instant présent, ou est-ce qu'il avait peur de l'avenir ou de la mort ?
Je ne sais pas si sincèrement je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui me vient à l'esprit... c'est une histoire. Si vous savez que vous allez mourir, qu'est-ce que vous faites ? Et je continue à jouer à la balle. Jean-Louis, en tout cas dans le film, dans la vie, je ne sais pas. Et puis sans doute que c'était complexe, mêlé. Mais dans le film, ce qui se passe, c'est qu'il continue à écrire. C'est-à-dire qu'il projette. En tout cas, il continue à écrire. Et un moment qui m'émeut toujours, qui m'a beaucoup ému quand on l'a filmé, mais qui m'émeut toujours quand je le vois, c'est à la fin, quand, à propos de l'histoire entre Macron et Le Pen, il dit « Je crois que je vais intervenir ». Et là, moi, je trouve ça génial. « Je crois que je vais intervenir ». Oui, parce qu'il s'engage, voilà, il est là. « Je crois que je vais intervenir ». Ça compte d'intervenir, même quand on n'a plus de force. Voilà, et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà, c'est la seule réponse que je peux faire. Je ne peux pas faire d'autres réponses, là, ce serait...
Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question ? Oui, Nicolas Philibert, au troisième rang.
Je crois que je vais intervenir.
Je mentionne d'ailleurs que le jardin qu'on voit dans le film de Dominique, c'est le jardin où Jean-Louis Comolli a donné rendez-vous à Nicolas pour le filmer dans son dernier film. Voilà, c'était en 2019. Et le titre était ?
Hasard et nécessité.
Nicolas Philibert, Hasard et nécessité. Voilà.
Voilà, j'aimerais dire un tout petit mot. D'abord, je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout, mais je tiens vraiment à dire combien je suis ému et bouleversé par ce film que je trouve très merveilleux, très extrêmement touchant. Et ce qui ressort pour moi, en premier, c'est l'immense générosité de Jean-Louis Comolli. Dominique, tu as parlé de « continue à jouer à la balle », mais on a le sentiment, en voyant le film, que Jean-Louis court après toutes les balles, renvoie toutes les balles, comme on dit. Il renvoie toutes les balles. On laisse... Tu dis un mot, ou Isabelle lance une chose comme ça, il rattrape tout, et il accueille toutes les idées, y compris les plus décalées peut-être, ou les plus farfelues, et on a le sentiment, en voyant le film, que peut-être vous avez en effet préparé un peu des choses, vous êtes dit, Ah, on pourrait l'amener à parler de ci ou de ça, etc. Et puis, c'est autre chose qui se passe, qui est beaucoup plus beau que tout ce qui pourrait être préparé, beaucoup plus fort que les thématiques comme ça que vous auriez pu souhaiter apporter, parce que tout d'un coup, ça part comme ça dans une direction, et puis ce qui se passe, c'est ce qu'on voit, c'est de l'entre-vous. C'est ça qui est magnifique à l'écran. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Oui, d'ailleurs, Jean-Louis, je ne sais plus si c'est dans le film, il dit, enfin, c'est évident, le cinéma est fait pour filmer des relations. Et voilà, là, c'est ça. Et chaque fois qu'on est dans la relation, sans avoir à l'expliciter, dans toute sa complexité, dans son épaisseur, ben, on est juste. Et il s'y prête. Moi, c'est en voyant le film que je trouve que... enfin, que je vois... Parce que quand on a fait le film, évidemment, j'étais... Tous ces rendez-vous remis, toutes ces difficultés qu'il y a eu pour le faire, c'était difficile. Et là, évidemment, sa générosité, et puis sa disponibilité, son désir de faire ce film jusqu'au bout, pour moi, éclate. Alors que, bien sûr, quand on était en train de le faire... C'était toutes les embûches à le faire. Et puis, non, je ne veux pas que tu me filmes, ceci, cela. Enfin, tous les noms qu'il a dit. Mais avec les noms, comme il dit l'espoir et le désespoir, avec les noms, il y avait aussi beaucoup de oui.
Tous ces petits moments autour du champagne, du vin, du café. Il faut appuyer sur les deux boutons, etc. Ça vaut tous les grands discours.
Oui, oui. Oui, sa singularité, en fait. Voilà, moi,
Annie, la présence d'Annie, la présence d'Esther.
Annie, Esther, de... oui. Le jardin. Denise, la jardinière, je ne sais pas si elle est là.
Si, elle est là.
Ah, elle est là.
Et à propos des accidents dont tu parles, Dominique, il y a un énorme trou dans le film. C'est 21 décembre, 25 mars.
Bah, oui, enfin, on avait prévu, et puis ça a été remis, et voilà, ouais. C'est...
On ne le retrouve pas dans le même état en mars, quand même. Pas tout à fait. Isabelle, tu voulais rebondir, je crois, aussi.
Oui, par rapport à ce que disait Nicolas sur justement la générosité qu'il avait, et aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point il était toujours dans le film, y compris quand il est très fatigué. Il y a une fois où on arrive et il est extrêmement fatigué. Et en fait, dès qu'il commence à parler, il fait des propositions. J'ai pensé que je pouvais prendre des livres. Donc, il a vraiment ce désir de film. Un autre moment, moi, qui m'avait beaucoup étonnée aussi, c'est puisqu'on avait nos places, en arrivant, j'avais ce texte qu'il avait posé, donc qui allait être le manuscrit de Jouer le jeu, auquel il me demandait de réagir dans l'instantané, puisque je ne l'avais pas lu. Et donc, la lecture que je fais, c'est un moment où j'ai parcouru, et puis je trouve ce passage qui m'émeut. Et je crois qu'il était vraiment dans ces moments d'ensemble, être ensemble, ce qui était très fort.
Est-ce qu'il y a une autre intervention ?
Oui, au milieu.
Il inclut Karine, la chef-op.
Tout à fait.
C'est-à-dire que, évidemment, moi, je voulais l'inclure, et ainsi que les trois autres. Et il l'inclut lui-même dans le dialogue. Notre athlète préféré, Karine.
Monsieur.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Didier Leleskiewicz. Je suis réalisateur, ancien élève de Jean-Louis Comolli à l'IDEC. Et j'ai eu le privilège d'être assistant sur un de ces films, et pas n'importe lequel, puisque c'est un petit film modeste, fait avec des moyens modestes, qui s'appelait Carnet de bal, produit grâce à Lina.
Que nous avons montré en octobre lors d'un hommage.
Oui, ce petit film avait été écrit par Alain-Ilan Chojnov, journaliste à France Culture. C'était pas Jean-Louis qui était à l'initiative, et c'est un film qui portait sur les communautés d'immigration italienne à Paris. Et le hasard a voulu que je travaille avec lui. Je me suis senti très proche de ce sujet, étant moi-même issu d'une communauté polonaise en France et on partageait beaucoup de choses. Et j'ai pu assister, en tout cas, lors de ce tournage, à des discussions assez tendues, je dirais, entre Alain Ilan et surtout Jacques Pamard, qui était notre chef opérateur de grand talent, et Jean-Louis, évidemment. Et la question portait beaucoup sur, justement, filmer le réel. Jacques avait besoin de comprendre, n'acceptait pas de d'appuyer sur le bouton on de la caméra sans comprendre ce qu'il avait, ce qu'il fallait qu'il filme, quoi. Et j'ai beaucoup appris sur ce tournage parce que il y avait des contradictions entre l'auteur du film, Alain, qui avait écrit ce documentaire en faisant toute une enquête sur la vie de ces émigrés italiens. Nous avons tourné dans les studios de Boulogne, n'importe quoi, à Boulogne-Billancourt, dans les usines Renault, dans les presses où c'était terriblement bruyant, et aussi une séquence magnifique le jour du bal où les femmes font cuire des pâtes. Et là, évidemment, je me disais, mais comment Jean-Louis imaginait ça? Et à mon grand étonnement, en fait, je pense que ça rejoint Dominique dans ce qu'il dit dans ton film sur sa pudeur. On avait l'impression qu'il voulait pas s'impliquer. J'étais très étonné parce que je me suis dit, mais enfin, tu t'appelles Comoli, quoi. Et donc, ça devait partie de sa culture, je supposais. À cette époque-là, j'ignorais évidemment tout son parcours d'enfance. Mais voilà, cette discussion sur le réel et la fiction, à cette époque, il préparait, il écrivait L'Ombre Rouge. Enfin, c'était compliqué, sa relation entre la fiction, l'écriture et la réalité d'un documentaire. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà le témoignage que je voulais apporter.
Merci. Donc le film dont vous parlez, c'est Harmonie. C'est pas On ne va pas se quitter comme ça.
Non, c'était...
Parce qu'il en a fait deux pour Carnet de Bal.
Je me souviens plus exactement le titre du film,
oui, oui.
Mais c'est un documentaire sur les communautés italiennes tourné à côté de la Bastille, hein, pas très loin d'ici. Voilà.
Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, intervention. Isabelle Rebre, ici, premier rang. Et on continue la discussion à la table et on rouvre aux questions après. Donc on a une deuxième passe possible si vous avez d'autres interventions. Bon, on va passer un peu à la question de l'utopie. Voilà, une dernière question ici.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que lançait Dominique là, avant cette prise de parole, sur le rapport de Jean-Louis Comoli à la caméra et particulièrement à Karine, cette manière qu'il a à travers elle de s'adresser à nous, finalement, alors qu'il a Dominique à côté de lui, il a Isabelle, il pourrait leur parler, enfin il a l'auditoire pour l'écouter, mais il ouvre sans arrêt dans ce jeu, est-ce que tu veux un café, est-ce que tu veux... Et ça, je trouve ça amène quelque chose d'extrêmement... presque léger, quoi, parce qu'il y a comme un jeu entre eux. Il est quand même metteur en scène, quoi, aussi. Donc il s'adresse directement à la caméra. C'est quand même très, très étonnant comme dispositif où lui s'adresse à elle. Et il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et en même temps, la caméra va son chemin aussi. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé cette manière dont elle va s'attarder sur les détails, tous ces détails qui font la particularité de ce moment. Très présent sur le café, sur l'enregistreur qui est là. Enfin, on a l'impression d'être vraiment dans l'instant présent avec vous par cette attention, la manière dont elle caresse les choses posées sur la table, les objets posés sur la table. J'ai trouvé ça très, très, très étonnant, voilà, ce dispositif avec cette caméra en dialogue avec lui, quoi. Et caméra, donc avec nous.
Caméra tactile. Merci, Isabelle. Alors, à la question de l'utopie, d'abord, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne question. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le thème qui nous a été imposé, parce que finalement, il est plus compliqué que ça n'en a l'air. Mais je vais donc passer la parole à quelqu'un qui n'aime pas parler en public, m'a-t-elle dit, c'est Michel Planel. Donc voilà, elle va commencer à nous dire ce qu'elle a un petit peu rassemblé autour de cette question.
Sur les deux derniers livres qu'il a écrits, je n'ai jamais trouvé le mot utopie. Il y a deux thèmes que je retiens de lui, c'est deux éloges que j'ai trouvés dans ce livre. C'est un, l'éloge de l'ombre, c'est-à-dire la réserve. Le mot réserve, ça, c'est un mot qui apparaît cinq ou six fois. C'était d'abord une qualité de Jean-Louis, qui ne posait pas de questions, qui était quelqu'un de très réservé. Et puis peut-être que ça dit beaucoup de son approche du cinéma, c'est-à-dire cette façon de se retirer pour laisser l'autre parler un peu. Ça me fait penser même à une mère qui regarde son enfant, les premiers pas de son enfant, et qui lui dit « Oui, tu peux, tu vas trouver l'équilibre, comme tu vas trouver la parole, tu vas dire des choses que tu ne sais pas que tu pouvais dire. » Et donc, et ça, c'est l'éloge de l'ombre, je dis ça en pensant à un livre magnifique que nous avons édité aussi, qui traduit du japonais. Et puis aussi, c'est l'éloge de excusez-moi, le mot me manque. Je vais le retrouver. L'éloge de l'illusion, pardon. Voilà, je crois que j'ai un passage sur l'illusion que j'aime beaucoup. Toutes ces dernières années, par film et écrit, je me suis battue contre la domination sociale du semblant. Quelques-uns de mes contemporains, écrasés par des prétendues réalités économiques qui font sans relâche leur propre publicité, en sont réduits à faire semblant. Vivre d'illusions et faire semblant se tiennent à l'opposé l'un de l'autre. Il nous revient de sauver cette opposition. Les illusions sont de l'ordre de la nécessité de vivre, en même temps qu'elles procèdent du plus impérieux des besoins, celui de croire. Le mot de croyance aussi revient beaucoup dans ces deux derniers livres. L'exemple ici s'impose de la guerre en Ukraine. À force de répétitions, de lavage de cerveau, de facticité publicitaire, de mensonges officiels, il devient urgent au sujet subissant d'en sortir pour retrouver l'illusion, la bonne illusion bienfaisante, qui est une source de fertilité pour les autres. Voilà, sur la retenue, c'est un souvenir de voyage à Venise qui est assez joli aussi. Si vous voulez, je vous le lis. Ça se finit par le mot que j'ai retenu et que j'ai repéré six fois dans le texte. Vous allez voir lequel. Cette année-là, la recette originale du Spritz était en passe de devenir l'apéritif européen tout-terrain. À Venise, le vin blanc local se disait du doux nom d'Ombra. On l'agrémentait d'un bon tiers de Campari, de deux ou trois projections d'eau de Seltz, de quelques glaçons. On pouvait y ajouter un trait de deux ou deux d'Angostura. C'était de tous les spritz le meilleur et sûrement le moins cher, car on poussait le délire en d'autres comptoirs jusqu'à faire du spritz au Dom Pérignon. Seuls les amateurs de cocktails, les barmen rigoureux et les partisans d'un cinéma modeste, sinon pauvre, pouvaient comprendre qu'il n'en fallait pas trop. Plus que tout, le goût résultant dans un cocktail est affaire de dosage, et ce dosage se dit retenu.
Merci beaucoup. À propos de la retenue et comment on pourrait l'articuler à l'utopie, je repense au film fait avec Nicolas Philibert, où je pense que c'est un des films de Jean-Louis, où Jean-Louis parle le moins. Je crois qu'il a deux interventions et demie sur un film de 1h30, et c'est extraordinaire, parce qu'il est intégralement là. Il est intégralement écoutant, il est même intégralement questionnant avec son regard. Et c'est évident que tu ne dis pas les choses que tu dis, Nicolas, dans ce film, comme tu les aurais dites si tu avais été, je ne sais pas, face à une web caméra, bien évidemment. Cette altérité de Jean-Louis est intégralement présente, or il est silencieux. Et il est silencieux dans un jardin. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que Michel parlait de la réserve, et c'est vrai qu'on pourrait penser que la stratégie de mise en scène de Jean-Louis est très souvent de trouver le lieu de cette réserve, d'arriver à trouver un lieu qui permette de se parler entre êtres humains à nu et en vérité. Donc voilà, petite pierre de réflexion que je sème au passage. Alors, ensuite, on avait dit, parce que je crois que tu voulais parler avant Vincent, non ?
Ok.
Oui, parce que Vincent, il va compléter avec Louise Michel, et toi, tu vas, voilà, tu vas évoquer des figures anarchistes, cher à Jean-Louis.
Oui, parce qu'en effet, si l'utopie n'est plus présente dans les derniers écrits, mais il y a quand même beaucoup de moments auparavant où il utilise ce mot d'utopie, où je cite par exemple, « Comme le rêve, l'utopie est une bataille à vivre au présent ». Et il situe aussi l'utopie cinématographique dans la place de la machine, caméra-projecteur, puisque au début, c'était une seule et une même machine. Et cette machine transmet des formes vivantes comme par-dessus la mort de chacun, dit-il. Et je cite dans un écrit, un texte qui s'intitule « L'utopie machine ». Telle est l'utopie essentielle dont est porteur le cinéma, faire passer le monde, les corps en les filmant, d'un état dans un autre, du physique au mental et du mental au physique. Et donc, il parle de ces utopistes aussi, c'est très beau dans ce texte, de ces utopistes qui ont réussi à imaginer un procédé de reproduction de la vie qui se moque de l'espace et du temps, donc qui ont réussi à imaginer ce procédé cinématographique. Et donc, oui, je voulais parler des figures de l'anarchie, enfin des figures anarchistes qui sont très importantes dans son cinéma et je crois dans sa vie. Donc le premier étant Giovanni Rossi, qui est au cœur du film La Cecilia, qui est projeté tout à l'heure, un film qui date de 1976. Il y a aussi Buenaventura Durruti, qui était un anarchiste espagnol au moment de la Révolution sociale en 1936, dont il fait un film en 1999. Et puis, il y a aussi Louise Michel, dont je pense Vincent nous parlera tout à l'heure, qui a fait l'objet de nombreux scénarios écrits par Jean-Louis et qui, malheureusement, n'a pas abouti à un film. Et à propos de Buenaventura Durruti, j'ai retrouvé des écrits de préparation, donc où il écrit à Jordi Ballo à Barcelone. C'est un écrit qui est daté du 23 juin 1997. « Voici de toutes premières notes sur le projet qui me tient à cœur pour répondre à ta proposition. Il mêle, c'est ce qui m'intéresse, histoire et rêve, politique et imaginaire, corps et mots. » Et il poursuit un documentaire qui se présente comme un voyage, moins dans la mémoire que dans l'imaginaire. Voyage dans le corps disparu du rêve politique. La disparition du corps comme couronnement du rêve. En même temps que faire apparaître la figure éclatée et auréolée de Durruti, il s'agit de démonter l'opération de construction du rêve politique à travers le corps même du héros, ses actes, ses gestes, ses blessures, sa mort, sa disparition. Donc là, je crois qu'il y a vraiment des choses très importantes sur sa manière d'aborder l'histoire et l'histoire de ces anarchistes pour lesquels il a énormément d'admiration parce que, dit-il, l'histoire est inaccessible. Et Jean-Louis est un très grand lecteur, on le voit d'ailleurs à sa bibliothèque, et Vincent l'a rappelé. Et presque tous ses films sont issus de livres, ne sont pas des adaptations, mais sont issus de lectures. Et j'ai beaucoup aimé, en discutant avec lui, il m'a parlé de distillation, comme si il lisait un livre qu'il en tirer l'essence, retirer son essence, et qu'avec cette essence, il faisait un film et que c'était une deuxième distillation. Donc je trouve que l'image est très très belle. Et je voudrais parler un petit peu de Giovanni Rossi, parce que je crois que c'est vraiment le personnage qui a été très très important, le personnage anarchiste qui a été très important dans la vie de Jean-Louis Comolli, qu'il a découvert presque par hasard, et qui est un anarchiste, mais même un anarchiste parmi les anarchistes, parce que donc on est à la fin du 19e siècle en Italie, et ce Giovanni Rossi ne souhaite pas, comme les autres anarchistes, modifier, révolutionner la société italienne, mais il veut créer une communauté à part, et donc qui serait le lieu de l'expérimentation de l'anarchie, c'est-à-dire vraiment sans maître. Et Jean-Louis l'écrit d'ailleurs dans Corps et cadre, il y a énormément de ressemblance pour lui, d'une certaine identification avec le personnage de Giovanni Rossi, qui est italien, qui est anarchiste, et qui va proposer cette expérimentation de l'utopie, qui est donc à la base du récit de la Cécilia, et dont Jean-Louis dit « filmer l'utopie, c'est filmer son agonie ». Donc ça va, je crois, avec ce jet dont il parle dans « Bonjour, Monsieur Comolli », il y a le négatif, mais c'est l'expérimentation qui compte. C'est ce chemin qu'il souhaite explorer, et c'est sans pathos. Et il se trouve qu'il va vivre aussi cette expérience du tournage de la Cécilia comme une utopie. Je vais le citer. Il écrit « Le tournage dont je parle ici », donc c'est écrit des années plus tard et publié dans Corps et cadre. « Le tournage dont je parle ici se déroulait dans un entre-deux troublant entre le funèbre et le festif. On filmait la réalisation d'une utopie, c'est-à-dire son agonie et sa mort fatale, mais en même temps, il passait sur ce tournage un tel air de liberté et d'allégresse et un violent désir d'être ensemble. » Et je crois que la bataille se situe là, dans ces moments de communauté qui sont des moments de tournage et dont il sait qu'ils vont prendre fin. Mais voilà, c'est l'expérience qui est importante. Et en voyant là, bonjour monsieur Comolli, j'ai été étonnée à quel point le livre et le film sont présents. Comme si, justement, il reprenait chaque balle et ce sont des balles qu'il a vraiment, enfin, qui ont beaucoup marqué sa vie. Il a beaucoup écrit, il a réalisé plus de 50 films et il les fait rejouer, encore une fois.
Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que, Vincent, tu souhaites prolonger sur ces figures-là?
Oui, tout simplement avec un document, quoi. C'est-à-dire, alors là, on est 9 mois... avant la floraison des roses, et Jean-Luc Comolli m'appelle parce qu'il voulait discuter d'un projet de film sur Louise Michel. Donc je savais qu'il y avait eu des précédents, enfin il y avait eu plusieurs projets de film comme ça, qui n'étaient pas réalisés. Je crois que le scénario n'avait pas encore été retrouvé dans la pile, à ce moment-là, le scénario de Louise et le commissaire. Et donc, j'ai juste amené le document qui ressemble en effet à... Alors, c'est pas c'est un scénario au sens d'une note d'intention de documentaire. Et c'est plutôt très beau. Donc, voilà, il commence comme ça, le principe général de ce projet.
Donc, projet de 2021 ou de 2020.
Voilà, on est en juillet 2021.
Donc il remet le couvert pour Louise Michel, si
voilà,
je puis dire.
D'accord. Avec une approche différente. Et d'ailleurs qui n'est pas sans résonance avec ce que vient de lire Isabelle. Donc le principe général de ce projet est simple à résumer. La commune n'est pas morte, la commune ne peut mourir. Une intention forte apparaît dans le texte. Comment rendre un hommage à la volonté de transformation sociale, la volonté de se battre contre la mort? Alors déjà, dans l'introduction, c'est là où, en effet, on peut faire des allers-retours entre les livres, même dits théoriques, et puis les projets de films, parce que dans l'introduction de Cinéma contre spectacle, il écrivait « L'utopie est à recommencer ». Le mot, donc il parlait le mot utopique, le mot lui-même est à reprendre. Et il écrivait après « utopiste debout ». Et donc c'est un projet de film dans lequel il voulait mettre en scène des femmes, donc demander à des actrices ou demander à des amis d'être en costume d'époque et de travailler à nourrir les plus démunis dans des décors contemporains, comme celui de la place de Clichy, qui a été important, et donc de jouer sur cet anachronisme. Et Louise Michel, vous parliez tout à l'heure du fait que de partir des mots, de partir des textes, et donc les voix seraient choisies parmi les extraits de beaucoup d'écrits de Louise Michel, qui seraient joués et interprétés par ces comédiennes. Et puis, il y avait aussi tout un ensemble de gravures du XIXe siècle, donc de Cabet, Rossi, Fourier, qui représentent des scènes d'utopie. Et alors là vient la question technique, c'est-à-dire il voulait qu'on discute d'une solution pour que le film soit continu et sans fin. C'est-à-dire, il a imaginé aussi une forme cinématographique utopiste, donc où là j'ai eu vraiment beaucoup de mal à essayer de trouver des solutions avec lui, c'est-à-dire comme un film qui serait comme une suite d'images qui semblent sortir les unes des autres, un mouvement continu, tel qu'on ne perçoive pas le bord droit du cadre, comme les broderies de la tapisserie de les broderies de la tapisserie de Bayeux. Donc cette grande tapisserie qui raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant. Et donc il y avait cette idée d'un récit où de trouver une forme qui n'ait pas de fin, une forme qui soit continue. Comme il disait, la commune est un désordre, elle ne peut pas tenir dans une bouteille. Donc quel est le cadre qui pouvait contenir ce récit? Et puis bien sûr, c'était réinterprété par ce qu'il traversait et les épreuves de la maladie. Puisque je me souviens, quand on avait cette même discussion, il y avait eu un rendez-vous avec Richard Courpens comme producteur juste avant. Et puis il y avait un appel aux soins palliatifs, parce qu'il y avait aussi la question d'un examen qui pouvait être déterminant sur la suite. Donc tout ça se mélangeait. Donc il rêvait un film sans fin, un film continu, une continuité infinie, je le cite, une continuité sans rupture, sans bord. Bien sûr, il y a quelque chose de paradoxal et dialectique dans cette recherche d'une forme continue. C'était la vision que la commune, elle, était... Alors, les textes de Louise Michel, c'était des fragments. Et donc, la continuité n'était pas linéaire, c'est-à-dire que les épisodes qui allaient être relatés allaient être tous datés, mais non pas restitués de manière chronologique. Il ne serait pas monté dans l'ordre. L'intention est claire, faire exister la commune, qui, elle, est datée, dans l'or du temps, l'or au sens dehors du temps, et dans l'uchronie de la Révolution. Voilà, donc on retrouve mais ce qui était un peu sa manière de penser, quoi, qui était de penser la forme, bien sûr, mais aussi dans une forme contradictoire, c'est-à-dire d'avoir à la fois... je voudrais retrouver ce qu'il disait sur... la commune et le désordre, c'est-à-dire justement, il y a une explication très belle sur pourquoi la commune ne pouvait pas être racontée dans une continuité. Voilà. Donc l'opposition entre cette forme et le réel même de ce qui a constitué l'histoire de la commune.
Merci, c'est une très belle contribution, tout à fait inédite. Est-ce que Dominique, tu souhaites dire quelques mots, parce que je sais que tu n'aimes pas trop le format universitaire, mais il me semble que nous avons été quand même raisonnables.
C'est que je n'ai pas les outils,
oui,
là.
Mais en fait, d'abord, il n'y a pas que des universitaires à la table, et les universitaires qui sont là,
ils pensent en fabriquant tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a entendu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter à ces merveilleuses interventions. Je pense au très beau texte que Jean Narboni a écrit après la mort de Jean-Louis, où il dit que Jean-Louis était toujours celui qui commandait une bouteille avec le dessert. Où je me souviens... un quatrième café. Et en fait, dans cette idée de la bouteille avec le dessert ou le quatrième café, ce que je ressentais, c'était, et il nous l'a magnifiquement donné dans ce film, et je le relis à l'idée d'utopie, c'est le partage. C'est-à-dire, et dans ses tournages à lui, quand j'ai pu participer, j'ai écrit un scénario avec lui, ou participer à un peu à un film, etc., et à la fondation d'Adoc, c'est l'idée du partage dans la vie. C'était une utopie. Commander encore un café, prolonger la discussion, quelque chose peut arriver en termes de partage. On est là ensemble, quelque chose peut surgir, on va prolonger la conversation pour laisser de la place à, en s'aidant éventuellement d'un peu d'alcool ou d'un quatrième café ou d'un autre dessert, on va laisser la place à quelque chose qui peut arriver et quelque chose qui va nous surprendre et qui, pour ce que j'ai vécu avec lui, était de l'ordre du partage, du surgissement du nouveau, du bel aujourd'hui.
Ben c'est magnifique comme mot de la fin, ça, Dominique. Voilà, on va continuer cette traversée des films de Jean-Louis avec la Cécilia. Il nous faut respecter un petit temps de battement, donc sortir de la salle et revenir. Mais donc, voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce...